Bien, alors bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs du Festival Cinéma Science, la librairie Mola qui nous accueille également aujourd'hui. Et j'ai le plaisir d'ouvrir une série de 4 conférences qui vous seront proposées par les chercheurs de l'Institut des sciences de la communication du CNRS. Demain à 12h30, au même horaire, au même endroit, Jean Foyer vous parlera des OGM et Laura Maxime, samedi à 12h30 également, des perturbateurs endocriniens. Alors, quel est le lien entre ces sujets extrêmement hétérogènes? Gouvernance de l'Internet, perturbateurs endocriniens, OGM. Demain à 18h, le directeur de l'Institut des sciences de la communication du CNRS, Dominique Volton, contribuera très certainement à dresser un fil directeur entre ces différentes interventions en vous parlant de l'expertise scientifique et des controverses. Et effectivement, un des points communs, c'est la question de controverses que nous étudions à l'ISCC, prises dans leur dimension aussi bien internationale, politique, culturelle, sociale, médiatique. Alors mon titre lui-même n'est pas absent de controverses, alors que l'on parle aujourd'hui de gouvernance de l'Internet davantage que de gouvernement. Comment gouverner sans gouvernement? Se demander dans un article intitulé « Fondements théoriques pour une régulation de l'Internet » Bernard Fallery, qui est professeur à l'Université Montpellier II, et Florence Rodin. Et en effet, le réseau des réseaux échappe à un gouvernement centralisé, au sens classique du terme, mais les rapports de pouvoir ne sont bien sûr pas absents de sa gestion, et celle-ci pose des questions bien plus larges que le simple aspect technique. La gouvernance est une notion complexe, et sa réalité l'est tout autant. Elle implique des enjeux économiques, politiques, techniques, sociaux, culturels. On est loin, finalement, des premiers groupes scientifiques qui conçurent le réseau à la fin des années 60, ce clergé technologique des premiers temps, cette communauté scientifique idéale qu'évoquait Patrice Flichy dans un article de la revue Réseau de 1999 ou dans son ouvrage « L'imaginaire d'Internet », en un temps où les premiers utilisateurs étaient aussi ceux qui en étaient les concepteurs. S'intéresser à la gouvernance de l'Internet, c'est poser la question alors de la responsabilité d'organisations transnationales du type ICANN, mais aussi internationales, Union internationale des télécommunications par exemple, du rôle des gouvernements nationaux, celui des industriels, des opérateurs de télécommunications, des organismes de normalisation tels l'ISO, également le rôle de la société civile, c'est s'intéresser à l'Internet tel qu'il a été, tel qu'il est, tel qu'il sera. Un Internet rêvé, projeté parfois, rejeté également parfois, et qui implique différentes échelles d'analyse. Comme le note Barbara Fanchewick, qui travaille au Stanford Center for Internet Society, dans son ouvrage « Internet Architecture and Innovation », beaucoup de personnes ont une attitude pragmatique à l'égard de la technologie. Elles ne se soucient pas, elles ne se préoccupent pas de savoir comment elle fonctionne, elles veulent juste l'utiliser. Au regard de l'Internet, cette attitude est dangereuse, nous dit-elle. Si nous voulons protéger l'utilité de l'Internet, si nous voulons pleinement réaliser son potentiel économique, social, culturel et politique, nous devons comprendre sa structure et ce qu'il adviendrait si elle changeait. Donc dans le temps qui m'est imparti, et bien sûr sans être exhaustive, j'aimerais introduire un petit peu à quelques enjeux, débats, acteurs et controverses qui traversent cette histoire et cette gouvernance de l'Internet. Alors je vais tout d'abord remonter aux origines du réseau assez rapidement, par réflexe d'historienne, pour échapper au présentisme et pour montrer comment peu à peu s'est organisée et structurée la gouvernance du réseau avant l'explosion des usages grand public. Dans un second temps, en articulant notamment autour de 2 dates clés, en tout cas je pense clés, c'est 98, la fondation de l'ICANN, et 2003-2005, sommet mondial de la société de l'information à Genève et Tunis, je vous montrerai comment on passe d'une question, on peut dire essentiellement technique, à une réflexion sur une gouvernance plus globale. Enfin, dans un troisième temps, je vous exposerai quelques-unes des controverses actuellement à l'œuvre. Alors, en 99, sortait un ouvrage de Dominique Volton intitulé « Internet et après ». Je commencerai par « Internet et avant ». Alors, tout d'abord, il faut rappeler qu'Internet n'est pas le web. Internet est apparu bien avant le web. Internet, donc, commence à naître. Alors, autour du projet ARPANET, d'abord dans les années 67-68, les premiers nœuds sont en fonctionnement en 69. Le protocole TCP, qui va être un des fondements ensuite de ce qui devient l'Internet, proposé par Robert Kahn et Winton Cerf, c'est 1974. La séparation en deux branches, une branche plus militaire, Milnet, du réseau ARPANET, et une branche plus civile qui devient vraiment l'Internet, c'est 83. Et le web, lui, n'apparaît qu'en 89-90. C'est les travaux de Tim Berners-Lee au Centre européen de recherche nucléaire qui commence à poser ses bases du web. Alors évidemment, le web a eu un rôle important dans la diffusion de l'Internet, dans son arrivée dans le grand public. Et souvent, ces deux notions sont mêlées, tant on associe contenant et contenu, la toile et le réseau. Mais au départ, Internet, c'est la possibilité d'interconnecter une pluralité de réseaux. C'est ce que propose le protocole TCP à partir de 1974, alors que Winton Cerf et Robert Kahn observent qu'il y a une diffusion de réseaux, réseaux informatiques, réseaux satellites, réseaux radio. Comment connecter des réseaux différents ? Alors, si on remonte un peu au récit des origines de l'Internet, on trouve deux récits des origines. Celui qui a été pendant un temps largement diffusé, c'est celui des origines militaires du réseau. Or, il est indéniable que les financements militaires ont joué. ARPANET naît au sein de l'Advanced Research Projects Agency, qui a des préoccupations militaires. Souvent, on fait aussi référence aux travaux de Paul Baran de la RAND Corporation, agence de sécurité militaire, qui a été, nous dit-on, le père de ce que l'on appelle les réseaux à commutation de paquets. Puisque nos messages, lorsqu'ils circulent dans Internet, avec le protocole TCP/IP, sont divisés, on va dire, en des petits morceaux qu'on appelle en gros les datagrammes. Et Paul Baran a conçu ce système en s'appuyant sur l'idée de la hot potato, patate chaude. Ça rend l'interception d'un message, la vulnérabilité du réseau, nous dit-il, beaucoup plus... Enfin, le réseau est beaucoup plus complexe à toucher dans un contexte. On est alors dans un contexte notamment de guerre froide. Mais il y a aussi des pères civils de la commutation de paquets. On peut citer le professeur Kleinrock à UCLA. On peut citer Donald Davis au National Physical Laboratory. Quant aux scientifiques qui travaillent au réseau ARPANET, ce sont essentiellement des civils. Winton Cerf, Robert Kahn et d'autres sont des universitaires. Et les centres qui se relient au réseau ARPANET sont des centres, ce qu'on appelle les ARPAS Contractors, qui travaillent effectivement avec l'Advanced Research Projects Agency, mais qui sont des civils. Alors, l'autre récit des origines que l'on trouve également, davantage notamment chez les apologistes d'Internet, c'est l'évocation des origines communicationnelles, ouvertes, certains vous diraient même libertaires. C'est ce qu'on trouve notamment dans l'ouvrage qui paraît en 1997 de Rhonda et Michael Oben, intitulé Netizens, et qui est un des fondements de vraiment cette réflexion sur la communauté. Communauté du net, ces visions prophétiques d'un monde de la communication par le réseau. Alors pourquoi cette idée d'ouverture, de racines communicationnelles, profondément communicationnelles ? Il y a plusieurs éléments qui jouent et qui sont importants pour l'Internet tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Alors l'idée d'ouverture, elle est inhérente au démarrage du réseau. La première idée, enfin une des premières idées dans le réseau ARPANET, c'est de créer un réseau ouvert. Il faut imaginer qu'à la fin des années 60, au début des années 70, les réseaux informatiques sont des réseaux propriétaires, avec des architectures du type SNA d'IBM, qui permettent à un réseau de ne supporter que les machines d'un seul constructeur. Vous voulez faire un réseau, et ben c'est un réseau DEC ou c'est un réseau IBM. Vous ne pouvez pas connecter des machines de constructeurs différents. Donc ce que propose ARPANET au départ, c'est de pouvoir interconnecter une diversité de machines de constructeurs différents. Par la suite, avec TCPIP, c'est encore une diversité de réseaux qui va pouvoir être interconnectés. Mais il y a bien cette idée d'ouverture. Ensuite, une autre raison de cette approche, de cette vision d'un réseau ouvert, c'est le mode de, on pourrait dire, standardisation qui peu à peu se met en place en ligne lorsque la technique va le permettre, qui est le système des requests for comments. Alors, les requests for comments, c'est une mémoire technique d'Internet absolument fabuleuse, disponible en ligne. Vous pouvez aller regarder, consulter ces requests for comments depuis la première qui a été publiée par Steve Crocker en 1969. C'est toute la mémoire technique du réseau, un formidable lab matériel pour l'historien. Actuellement, ma dernière consultation, on en était à 6014 RFC. En dehors des organismes, on va dire, de standardisation traditionnelle, se construit peu à peu ce réseau avec des standards qui peuvent être proposés. Alors, on ne va pas dire par n'importe qui, il faut avoir évidemment un niveau de compétence informatique et de compréhension des réseaux suffisant, mais par une diversité d'acteurs. On peut retrouver notamment quelques noms français dans les premières RFC, suivre un peu toute cette paternité technique du réseau. Alors, il y a aussi l'image parfois un petit peu d'un réseau libertaire. Alors évidemment, ça naît dans le contexte, on est à peu près on est en 68, 69. Il y a quelques mois paraissait dans la revue IEEE un article d'Elisabeth Feinler qui a été directrice du Network Information Center au Stanford Research Institute et qui nous raconte comment elle pénètre dans la communauté en gros ARPANET dans les années 70. Elle découvre en 72 ces hommes qui s'intéressent ARPANET et en particulier elle rencontre Douglas Engelbart qu'on connaît notamment pour avoir été l'inventeur, on nous dit, de la souris. Et que nous raconte Elisabeth Feinler dans son article ? Que ces équipes qui travaillaient là à l'informatique, alors au sein de l'ARC notamment, l'Augmented Research Center et à d'autres travaux et un petit peu à ARPANET, étaient des gens alors aux cheveux en bataille, qui portaient des salopettes, des Birkenstock. Les femmes, nous dit-elle, ne portaient peut-être même pas de soutien-gorge. Dire que cette communauté était bizarre, nous dit-elle, et peu dire. Donc il y a cette image un petit peu d'un monde là d'informaticiens un petit peu décalés par rapport aux structures universitaires classiques. Elisabeth Feinler vient du département et littérature du Stanford Research Institute. Toutefois, alors ce ne sont pas des hippies, hein, les fondateurs d'ARPANET et d'Internet. C'est pour reprendre une formule de John Postel que je sors un petit peu de son contexte, mais il nous dit dans une RFC "Be liberal in what you accept and conservative in what you send." Il y a une rigueur derrière, évidemment scientifique, technique, absolument évidemment incroyable. On est en tout cas dans ces années. Fin des années 60, dans un milieu extrêmement effervescent. Alors, il y a plein d'autres projets, il y a les pensées aussi, toute la pensée de Licklider, on pourrait évoquer le projet de Nelson, également Xanadu, sur l'idée d'une bibliothèque universelle. On n'est pas encore au web, mais il y a toute cette pensée, il y a toute la communauté Unix qui peu à peu va se créer autour de Usenet. On est dans un milieu effervescent. Et dans ce milieu dans lequel naît ARPANET, peu à peu, toutefois, des structures vont se mettre en place pour monter ce réseau qui pose malgré tout des questions techniques, de standards, etc., extrêmement complexes. À l'été 68, se forme notamment le Network Working Group, qui a une particularité qui est de faire travailler aux côtés de professeurs, on met souvent en avant cette structure assez égalitaire, des étudiants de second cycle, avec cette image d'un milieu où tout le monde peut contribuer, en fonction de ses compétences, bien sûr, mais c'est la compétence qui est la règle et pas uniquement la hiérarchie universitaire. Voilà qui, à nouveau, contribue à ce récit des origines ouvertes, libertaire, profondément communicationnel. Les RFC donc apparaissent en 1969. En 72 est créé ce que l'on appelle également l'International Network Working Group, qui doit peu à peu réfléchir à des standards qui seraient proposables ensuite dans les organismes de normalisation. Et on voit ainsi toute une série de comités ad hoc se mettre en place. On pourrait évoquer l'IAB et d'autres. Je vais essayer de ne pas vous abreuver là de sigles et de même s'ils sont intéressants pour comprendre la gouvernance. J'aimerais juste évoquer, bien sûr, ce que c'est important pour la suite de notre histoire, l'IANA, l'Internet Assigned Numbers Authority. Ça va être pris en charge par John Postel. C'est tout ce qui est la question du nommage, ce qui va peu à peu devenir le Domain Name System dans l'Internet. Et ce que nous disent dans un ouvrage qui a maintenant quelques années, mais qui est aussi un des premiers ouvrages sur l'histoire d'ARPANET et d'Internet par Lyon et Hafner, les sorciers du net, il rapporte les propos de Craig Partridge, qui travaillait à la firme Bolt, Beranek & Newman, qui a contribué à créer une partie du réseau ARPANET. Et que nous dit Craig Partridge, c'est que le problème du nommage et des adresses devient évident quand le nombre d'ordinateurs hôtes connectés, on parle alors d'ordinateurs hôtes, atteint à peu près 2000, et que tout le monde veut appeler le sien Frodo, en référence au Seigneur des Anneaux. Là, la question du nommage devient essentielle. Bon, c'est une anecdote humoristique, mais Partridge, Mocapetris et Postel, à partir de 83, s'intéressent au schéma, un schéma possible pour le domaine Name System. On va être évidemment obligé de sauter des étapes. Hein, c'est un tableau à très grands traits, mais en 1992, naît également une autre institution importante qui est l'Internet Society, qui va regrouper notamment l'IETF, l'IAB, l'IESG et l'IRTF, qui sont des comités de recherche et de réflexion technique. Et le dernier né dans cette période, c'est 94, c'est le W3C. Là, c'est Tim Berners-Lee qui va créer un consortium pour la gestion de tout ce qui est World Wide Web. Le MIT accueille la première structure en 1994. En 1995, un hôte européen arrive et c'est la France qui accueille cet hôte européen. C'est l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique et Automatique, et au Japon, en 96, à l'Université de Kaio, un troisième hôte est créé. Alors pourquoi en marge des autres et pourquoi un organisme pour le web en marge, on pourrait dire, de l'Internet Society ? Je vous renvoie sur ces questions extrêmement intéressantes à l'ouvrage, notamment que Tim Berners-Lee a écrit, qui s'intitule « Weaving the Web », où il nous explique un peu comment il a bâti le W3C et le web, tout simplement. Il nous explique cela. Alors évidemment, la question, c'est pourquoi on commence à structurer cette réflexion, ces travaux techniques sur Internet en dehors d'organismes de normalisation qui existent déjà, et notamment l'ISO qui s'occupe, l'International Organization for Standardization, s'occupait des normes informatiques. Une des grandes historiennes de l'Internet, qui est Janet Abbaté, qui a écrit Inventing the Internet, nous donne une explication. Ce qu'elle nous dit, c'est que le fait que les protocoles de l'Internet aient été établis, non pas dans le cadre des organismes de normalisation traditionnels, et qu'en plus ils émanent des États-Unis, qui déjà dominait le marché industriel de l'informatique, rendait pratiquement politiquement impossible l'acceptation par l'ISO de la proposition des acteurs Winton Cerf, Robert Kahn, de la proposition de reprendre en gros TCP/IP. Alors effectivement, à la même époque, l'ISO, dans les années, on va dire 80, réfléchit elle aussi aux architectures ouvertes, mais va proposer une solution différente qu'on appelle l'OSI. Et les acteurs de l'Internet vont rester en marge, on pourrait dire, de ces discussions. Il y a des explications techniques. Winton Cerf est pas convaincu de la solution OSI. Il y a des explications économiques, politiques aussi. Cette domination américaine sur le marché informatique a pu jouer. Il y a peut-être une méfiance de certains acteurs au sein de l'ISO. Les Européens vont beaucoup plus porter effectivement l'OSI. On peut aussi se demander si, avec les requests for comments que j'ai évoqués précédemment, en créant un système finalement de réflexion souple, flexible, assez informel, tout comme avec l'INWG et d'autres, les acteurs de l'Internet n'avaient pas trouvé là un mode de fonctionnement qui finalement leur convenait mieux. Et on pourrait faire référence à cette philosophie qui a été évoquée par David Clark lors du 24e anniversaire de l'Internet Engineering Task Force. Il disait « We reject kings, presidents and voting. We believe in rule consensus and running code. » Est-ce qu'il faut penser là à la phrase de Lawrence Lessig qui a créé le Center for Internet and Society, « The code is the rule ». L'idée que c'est le code là qui doit dominer. Alors ce que nous dit David Clark, c'est quand même qu'il faut aussi un consensus approximatif, mais on est alors dans une idée de consensus qui est essentiellement technique au moment de ces premiers temps l'Internet. Alors, il y a actuellement des travaux très intéressants à l'Université du Wisconsin, derrière Sandra Brahman, qui travaille à analyser justement toutes les requests for comments. Et elle nous montre qu'entre 69 et 79, 17% des requests for comments commencent à s'intéresser, par exemple, à la notion de privacy. Donc, il y a déjà une réflexion quand même sur autre chose que la simple technique, mais on est encore là, malgré tout, dans un monde extrêmement technique. Et donc, une construction en marge d'acteurs traditionnels qui, pour certains, ont déjà des années d'existence. Je pense en particulier à l'Union internationale des télécommunications. Un historien, Léonard Laborie, là, vient de faire paraître une histoire de l'UIT qui remonte à sa création, 1865. L'UIT commence, elle a une histoire derrière elle, quand les pionniers d'ARPANET et de l'Internet apparaissent. Et elle est au départ assez en marge de toutes ces réflexions techniques. Alors évidemment, l'UIT et d'autres ne vont pas tarder à revenir sur le devant de la scène et à s'intéresser à ces questions. Et c'est là que d'un débat technique, on va aussi voir passer un débat élargi, beaucoup plus global, avec l'entrée d'acteurs différents. Et ce, en gros... au moment où l'Internet devient grand public, vers la fin des années 90. Alors, je vais être extrêmement rapide sur la contextualisation, mais juste pour vous rappeler qu'effectivement, le web commence à s'étendre dans le grand public et Internet avec dans les années 90. Le web a été un élément clé, les messageries électroniques également. Déjà en 75, dans ARPANET, on avait à peu près 1000 adresses électroniques, mais rien à voir évidemment avec ce que l'on connaît aujourd'hui. L'essor d'un espace marchand sur Internet a évidemment joué un rôle. 98, on pourrait évoquer les accords de Genève qui confirment la volonté soutenue par Bill Clinton que les droits de douane, ne s'appliquent pas provisoirement, ne s'appliquent pas aux transactions commerciales effectuées sur le réseau électronique. On a l'apparition de Netscape, on a l'apparition ensuite de portails Yahoo, AOL qui vont contribuer aussi à la navigation. L'introduction en bourse de Netscape en 95, voilà, quelques tournants au milieu des années 90 et à la fin des années 90. Alors avec cette diffusion, les questions prennent de l'ampleur et les applications d'Internet vont soulever alors des questions d'ordre juridique concernant le droit de responsabilité, le traitement des données personnelles, la propriété intellectuelle. Il y a des questions de sécurité, bien sûr, liées à ce que l'on appelle le pourriel, les spams, la cybercriminalité. Et depuis la création de l'ICANN en 98 jusqu'à nos jours, on va voir une diversification des acteurs. On peut évoquer la création du Working Group on Internet Governance en 2005, au sommet mondial de la Société de l'Information de Tunis, puis du Forum sur la gouvernance d'Internet. On pourrait évoquer le rapport mondial sur le développement humain de 2001, au PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, qui s'intéresse aussi à ces questions. Le World Information Technology Programme de 2003, organisé par l'IFIP, sous les auspices de l'UNESCO, et bien d'autres réflexions qui, peu à peu, vont contribuer à enrichir cette question de la gouvernance de l'Internet. On passe d'une vision technicienne à vraiment une vision plus globale, à un modèle plus hybride. Alors, il y a, me semble-t-il, deux ruptures. 98, tout d'abord. Alors, 98, c'est la création donc de l'ICANN, que j'ai précédemment évoquée, l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Elle est créée en 1998, au moment où s'éteint John Postel, qui jusqu'à présent, je vous l'ai dit, au sein de l'IANA, hein, s'occupait en gros du nommage. Toutefois, la réflexion n'est pas née à la mort de John Postel. C'est même John Postel qui, dès 1994, avait proposé de passer la responsabilité, on pourrait dire, du nommage à l'Internet Society. Et entre 94 et 98, se joue là toute une série de débats et de réflexions. Donc l'ICANN va recevoir la responsabilité d'administrer le système de nommage et d'adressage, de définir les principes qui le régiront, d'accréditer les bureaux d'enregistrement. C'est une association privée à but non lucratif de droit californien qui se trouve à Marina del Rey et qui gère donc le DNS. Alors pour faire très simple, c'est un service qui établit une correspondance entre une adresse IP, c'est-à-dire en gros une série de chiffres propres à chaque ordinateur connecté au web, et un nom de domaine. Et donc au lieu d'avoir à taper une série de chiffres, on peut se connecter au site en tapant, par exemple, le nom de la société. Alors, vous connaissez tous les .com, évidemment, les .org, ce qu'on appelle les noms de domaine génériques, et aussi les noms de domaine relatifs à un pays, les .fr, .de et d'autres. Alors, comment se passe cette transition? Je vous renverrai un article de 99 de Milton Muller, intitulé ICANN and Internet Governance, Sorting Through the Debris of Self-Regulation. Il montre un peu les coulisses, telles qu'il les perçoit en 99 de la création de l'ICANN, en disant, en fait, derrière tout ce discours que met en avant l'administration Clinton sur l'idée d'une self-regulation, il y a beaucoup d'improvisation et des luttes de pouvoir qui sont importantes. Tout se joue entre, d'une part, l'IANA, d'autre part, ce que l'on appelle la société NetSol Inc., Network Solution Inc., qui, en gros, commercialise les noms de domaine. Au départ, elle avait reçu de la National Science Foundation $1 million par an pour attribuer les noms de domaine. Or, en 92, elle devait à peu près enregistrer 300 nouveaux noms de domaine par mois. En 95, 45 000. Et elle obtient en juillet 95, juillet, je crois, juin ou juillet, enfin, l'accord de la NSF, notamment pour faire payer ces noms de domaine. Alors, il y a des enjeux, là, entre l'IANA d'une part, NetSol Inc. d'autre part. Des négociations sur est-ce que le nommage doit passer à l'Internet Society. Le département du commerce est partie prenante également de ces débats. Ce que l'on appelle aussi WIPO, qui s'intéresse à tout ce qui est propriété intellectuelle. L'Union européenne surveille aussi ces questions. Et c'est effectivement dans la controverse déjà que l'ICANN est fondée en 1998. Avec, selon Muller, derrière vraiment une forte présence des États-Unis, du département du commerce, mais aussi de l'Internet Society. Alors pourquoi c'est important? Parce que derrière le nommage, il y a un certain nombre d'enjeux essentiels, et essentiels évidemment encore aujourd'hui. Il y a des enjeux politiques. La question, c'est quelle place on laisse finalement au gouvernement des États-Unis, au département du commerce américain et aux droits des États-Unis dans cette question du nommage. Souvent, on évoque, là c'est une question qui est d'actualité, mais par exemple le refus du département du commerce de lancer un point XXX pour les sites qui font commerce, en gros, marché du sexe. Et actuellement, le débat revient, le département du commerce avait refusé ce point XXX. Il est actuellement en discussion. On a déjà à peu près 183 000 personnes qui ont déposé une pré-demande. À l'heure actuelle, c'est plutôt le GAC qui représente les gouvernements nationaux qui bloquent sur ce développement de l'extension .xxx. qui évidemment représentent des enjeux économiques importants. Il y a derrière aussi des critiques qui sont faites envers la société VeriSign. Alors la société VeriSign, elle a absorbé NetSol Inc. Et c'est elle qui maintenant a en main la distribution du .org et du .com. .com étant le plus rémunérateur. Hein. Or, ce que l'on nous met souvent en avant, c'est que VeriSign, qui est chargé de la sécurité, a aussi entre ses mains un outil extrêmement important. Elle maîtrise en gros le serveur de tête de ce que l'on appelle les serveurs de racine qui gèrent la base du DNS. En gros, il y a l'idée derrière que si VeriSign, qui est accrédité en lien avec le département du commerce, voulait bloquer des noms de domaine et rendre inopérantes les ressources d'un pays tout entier, elle pourrait le faire. Et on voit derrière des enjeux géopolitiques extrêmement importants. C'est Maxime Pinard, qui est responsable administratif de l'Institut supérieur de relations internationales et stratégiques, qui nous dit par exemple que le président Obama, au moment de son investiture, a précisé qu'en cas de cyberguerre, il emploierait tous les moyens dont dispose l'ICANN pour isoler l'ennemi, quitte à bannir, du web tout un pays. Mais il y a aussi derrière des enjeux sociaux. Je vous ai évoqué l'article tout à l'heure de Bernard Fallery et Florence Rodin, que nous disent-ils également dans leur article que je vous recommande. Bientôt, une liberté fondamentale pour les citoyens sera de pouvoir établir un périmètre de sécurité autour d'eux, une sorte de droit au silence. En effet, il nous rappelle que la société VeriSign vient d'être aussi chargée de tout ce qui est ONS, Object Naming Service, par notamment EPC Global, qui est le consortium mondial des codes-barres. On est là dans toute la question de l'Internet des objets. Nous disons, VeriSign va avoir la gestion des noms de domaine, la gestion finalement de l'ONS et de l'Internet des objets. On va être entouré, suivi. Ils le disent un peu plus... la démonstration est un peu plus complexe que ça, mais ce droit au silence, comment va-t-on l'avoir? Alors, si certains s'inquiètent de la racine, d'autres se préoccupent, on pourrait dire, de leur racine. Hein, vous m'excuserez ce mauvais jeu de mots, mais il y a aussi, derrière l'ONU, derrière l'UNESCO, notamment, toute une réflexion qui va, elle, être beaucoup plus tournée vers la société, vers les utilisateurs. Et là, j'arrive à ces années 2003-2005. En 98 est apparu l'ICANN, mais en 98 également, à la conférence plénipotentiaire qui se tient à Minneapolis, il est décidé de faire un sommet mondial de la société de l'information organisé par l'Union internationale des télécommunications. Alors, en deux temps, à Genève en 2003, à Tunis en 2005, ce sont tout d'abord 11 000, puis près de 20 000 participants qui vont participer à une réflexion sur la société de l'information, la question de la fracture numérique, mais très vite débouche dans ces débats la question de la gouvernance de l'Internet. Alors, il est important de préciser que parmi ces représentants, il y a des représentants officiels de... 175 pays. Il y a également des représentants de l'ONU, mais aussi des ONG, de la société civile, des personnes, des médias également. Évidemment, le jeu est un petit peu biaisé par le droit de parole à l'ONU. Hein, tout le monde n'a pas la même opportunité de s'exprimer. Ceci dit, les ONG, la société civile vont là se battre aussi pour avoir un droit à la parole et être entendu. Et il est décidé de créer un groupe de travail sur la gouvernance de l'Internet qui, derrière Nissim Desai, va proposer une définition de la gouvernance qui est vraiment loin d'une ce clergé, je vous ai dit, technologique des premiers temps que j'évoquais précédemment. Que nous dit ce groupe que la gouvernance... Enfin, je vais vous lire tout simplement la définition. Il faut entendre par gouvernance de l'Internet l'élaboration et l'application par les États, le secteur privé et la société civile dans le cadre de leurs rôles respectifs de principes, normes, règles, procédures de prise de décision et programmes communs propres à modeler l'évolution et l'utilisation de l'Internet. Ils nous disent également qu'il faut bien comprendre toutefois que la gouvernance de l'Internet, recouvre davantage que la gestion des noms et adresses utilisés dans le réseau mondial et les questions dont s'occupe l'ICANN, et qu'elle englobe aussi des questions de politique générale importantes, comme les ressources Internet critiques, la sécurité, la sûreté du réseau mondial et ce qui touche à son développement et à l'utilisation qui en est faite. Alors, un des résultats tangibles de ces sommets mondiaux de la société de l'information, c'est notamment la création de l'Internet Governance Forum, dont septembre 2010 a eu lieu là une session à Vilnius. On voit donc apparaître plusieurs voies de gouvernance possibles. Alors évidemment, on ne va pas dire que tous ces acteurs et toutes ces propositions de gouvernance sont sur un pied strictement égal dans l'immédiat. Mais là où certains proposent une gouvernance par des organismes transnationaux du type ICANN, d'autres mettent en avant la possibilité d'une gouvernance aussi intégrant les organismes internationaux du type UIT, on va y revenir aussi, UNESCO. Certains proposent davantage une gouvernance par la technique. On revient à la phrase « The code is the rule » de Lessig. D'autres, évidemment, se posent également la question de la régulation gouvernementale. On pense immédiatement, on va y revenir dans les controverses actuelles, mais à l'Internet chinois. On pense également aux questions que pose, par exemple, l'Internet en Iran, mais aussi au débat extrêmement vif que j'évoquerai sur l'Internet en France avec Adopi, l'OPSI et d'autres. Il y a évidemment aussi la question de la régulation par le marché et là une pluralité d'enjeux. En tout cas, face à la corporate governance, il y a des propositions alternatives et les uns proposent des solutions politiques à des problèmes techniques, là où les autres voient au contraire des solutions techniques à des problèmes politiques. On voit bien que tout est réuni pour créer la controverse. Alors, ces controverses ne respectent pas purement la césure acteur économique, acteur politique, acteur... je ne prendrai qu'un exemple, c'est notamment les deux visions de la société. Alors, de l'information pour lui, que propose l'UIT face à une société davantage des savoirs, de la connaissance que propose l'UNESCO. Qui, dans une vision moins technique, va mettre en avant une idée de la gouvernance électronique qui doit encourager les citoyens à s'impliquer dans les processus de décision, rendre le gouvernement plus accessible, transparent. Il y a derrière, l'UNESCO porte notamment la question du multilinguisme, de cette société, justement, du savoir, de la connaissance. Alors, nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir le professeur Kindou, qui est professeur à Bordeaux, qui est présent, et je voulais justement vous renvoyer à son ouvrage « Les pays en développement face à la société de l'information » qui est paru en 2009 chez l'Harmattan et qui nous montre bien que finalement le partage de l'information ne suffit pas. Il faut aussi s'interroger sur l'information appropriée. Face à une vision américaine du monde de la communication qui est parfois contesté face à cette domination de VeriSign, de l'ICANN, on voit une réflexion notamment portée par les pays du Sud d'une société numérique de la connaissance différente. C'est ce que porte notamment le groupe des 77 et la Chine, alors qui sont apparus avant l'Internet en 64. Mais il y a derrière l'UNESCO, je vous rappelle 2007, respect de la diversité culturelle, d'autres réflexions qu'uniquement une réflexion sur la gouvernance technique. Notamment une réflexion sur les noms de domaines internationalisés. L'idée que les noms de domaines qui étaient essentiellement limités au caractère latin ou romain étaient un élément de bataille important pour la multilinguisation de l'Internet. Alors l'ICANN développe maintenant des noms de domaines internationalisés. Mais le 16 novembre 2009, notamment, des adresses web rédigées avec des caractères chinois ou arabes pouvaient commencer à être enregistrées. Toutefois, dès 2006, la Chine n'avait pas attendu que l'ICANN propose des noms de domaine en caractères chinois. La Chine, notamment, s'est détachée en fait de l'ICANN pour créer ses propres noms de domaine. Alors, est-ce que c'est très important ? Oui, On parle à l'époque, en 2006, d'un véritable schisme. Et ce que nous disait à l'époque Laurent Bloch, qui est à Paris Dauphine, c'est que ce schisme a des répercussions extrêmement importantes. En tapant son adresse, l'internaute chinois arrive en réalité sur une version chinoise du site en question, préalablement aspiré, vérifié, remis en ligne par les autorités. Le résultat est que tout internaute chinois utilisant les idéogrammes est cantonné sur ce sous-réseau, déconnecté de la toile et directement contrôlé par Pékin. On parle alors, en 2006, il y a une véritable peur de la balkanisation, de peu à peu la création d'îlots de connectivité. Et on voit là que la question du poids des pays, la question du national se pose. Alors les gouvernements, évidemment, sont aussi en train de s'interroger sur leur place dans la gouvernance de l'Internet. La France avait connu des 2000 avec l'affaire Yahoo, vous vous en souvenez peut-être, hein, la vente d'objets nazis sur Yahoo qui avait créé des protestations, notamment de la LICRA et une condamnation du tribunal de grande instance de Paris. L'affaire avait rebondi lorsque la cour de San José aux États-Unis avait dit qu'eux n'avaient pas vocation à interdire ce type de site et que ça rentrait en contradiction avec la juridiction états-unienne. La France avait déjà vu qu'il y avait là des problèmes de droit, des enjeux extrêmement forts. Actuellement, la France se distingue, on pourrait dire, davantage par les débats qu'elle provoque autour d'Adopi et autour de l'OPSI 2, qui doit être rediscuté à partir du 14 décembre. Il y a là des groupes qui dénoncent très fortement ce qui, pour eux, est vraiment une emprise, un obstacle à la liberté d'expression. Jérémy Zimmermann, qui est par exemple porte-parole de la Quadrature du Net, alors très occupé actuellement parce qu'il a à suivre Adopi, l'OPSI, mais aussi ACTA du côté européen. Enfin, là, il y a vraiment des débats très forts en ce moment. Donc, on entend beaucoup Jérémy Zimmermann qui, souligne que ces dispositifs vraiment sont des risques d'importantes censures collatérales, tandis que sur Twitter, certains n'hésitent pas à comparer la situation de la France à celle de la Chine ou de l'Iran. L'Iran coupe l'accès à Gmail, nous on a l'alopsie. Bon, restons certainement mesurés dans les comparaisons, mais voilà un petit peu ce qui circule. Ces lois, en tout cas, révèlent une grande diversité de points de vue, même au niveau national, sur ce que doit être l'Internet. L'Internet Society France et 13 chapitres européens ont condamné cette loi, notamment Adopi. On voit que créer un consensus national autour de la gouvernance de l'Internet devient extrêmement complexe. Il faut aussi penser avec, bien sûr, l'Union européenne, et là encore, en fait, les partenaires sont assez peu soudés. Je suis peut-être un petit peu négative, on pourra peut-être davantage y revenir dans les débats. Bon, ACTA, sur le traité anti-contrefaçon, la pose évidemment des enjeux également forts. Mais je prends un autre exemple très rapidement, la question de la neutralité du net, dont on nous parle actuellement beaucoup, à savoir est-ce que les gestionnaires d'infrastructures, les fournisseurs d'accès, les moteurs de recherche ont le droit d'intervenir sur les contenus, en gros, et les applications qui passent. Alors que Nelly Kroes, qui est actuellement commissaire européenne chargée des nouvelles technologies, invite à la neutralité, dans le même temps, le ministre de la Culture britannique, Ed Veese, propose au contraire de tester une évolution vers un marché à deux niveaux où les consommateurs et les fournisseurs de contenu pourraient choisir de payer pour différents niveaux de qualité de service. On sait également, alors il y a toute une série d'affaires, c'est par exemple sur la téléphonie mobile, certains opérateurs qui bloquent l'accès à Skype, c'est moins rentable que les communications téléphoniques, que de développer la voix sur IP. Je vous prends un autre exemple, c'est les débats également sur les accords qui auraient pu avoir lieu entre Google et Verizon pour que l'opérateur de téléphonie fasse passer plus rapidement les contenus Google. Je lisais hier soir que Bruxelles enquête sur Google aussi pour voir s'ils n'ont pas tenté d'abaisser le rang des services concurrents. On a là toute une série de débats qui actuellement sont à l'œuvre, tandis que la FCC vient de voir son jugement cassé par la Cour fédérale de Washington, qui condamnait notamment le premier câble opérateur américain Comcast, qui refusait l'accès à BitTorrent à ses usagers. Donc on a là vraiment des débats qui rejoignent. Alors un article que de Tim Berners-Lee, donc fondateur du web, qui s'intitule de Long Live the Web, qui est paru il y a également quelques jours, et qui nous met en garde contre un risque également d'emmurement au sein du web, et plus seulement au sein de l'Internet. Alors, les frontières sont-elles toujours présentes dans l'Internet ? Eh bien, bien sûr. Et si on lit aussi bien l'ouvrage de Mathiasson, qui s'intitule Internet Governance, the New Frontier of Global Institutions, ou encore celui de Jack Goldsmith et Tim Wu, intitulé « Who Controls the Internet? Illusions of a Borderless World », on voit bien que les frontières ne sont pas tombées. On peut se demander même si elles ne risquent pas de se renforcer. C'est ce que nous dit en tout cas Tim Wu, qui est le créateur de la notion de neutralité, hein, de l'expression neutralité du net. Il nous ramène à l'histoire dans son ouvrage The Master Switch, en montrant comment, au moment des ruptures technologiques et de la création de nouvelles formes de communication, se créent des monopoles. Il évoque AT&T, il évoque NBC et d'autres. Lui met en garde contre la domination possible de Steve Jobs, et Tim Berners-Lee rejoint ces idées-là sur les risques que fait courir Apple. Alors soyons peut-être optimistes avec Robin Hanson, un économiste qui confie en 2006 à Daniel Kaplan, qui est président de la fondation Internet Nouvelle Génération. Il y a beaucoup de formes possibles d'autarcie, mais la combinatoire fait qu'il y a bien plus de formes possibles pour une société interdépendante. Bien sûr, beaucoup de gens préféreront le statu quo et s'effraieront de ses possibilités. Le défi est d'inventer des alternatives plus attirantes. Alors, ces alternatives, elles sont en cours d'exploration. Un des cofondateurs, par exemple, de The Pirate Bay, vient de proposer, pour sortir du modèle DNS classique, un peer-to-peer DNS qui est à l'étude. Il y a plein d'autres voies actuellement qui sont en cours d'exploration. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à l'utopie de la fin des années 60 d'universalité, alors l'universalité est bien sûr loin d'être faite, mais maintenant répond aussi l'utopie de l'autarcie, qui devient de plus en plus difficile. Et finalement, j'aimerais finir en disant tout simplement que face à la croyance que la communication vient de la performance technique, cette histoire nous montre bien que cette communication, elle vient avant tout des hommes. Je vous remercie.